Donc, on va commencer par les fondamentaux. Je vais à certains moments tenter d'illustrer ça également avec quelques éléments sonores. Il est vrai que j'en ai pris un certain nombre, d'une part pour le saluer, saluer le travail qu'il a pu faire chez Sub Rosa. Donc, j'espère que Gérard-Marc Inan ne passera pas les mêmes, sinon on en parlera entre nous. Voilà. Alors, c'était dans l'intitulé Une idéologie du bruit, c'était un petit, ça c'était un peu prétentieux. Je veux dire, commencer directement par là. Donc on va parler du bruit à l'intérieur d'une classe d'objets qui est les objets sonores. Et il faut bien se rendre compte que dans le courant du XXe siècle, s'il y a bien une catégorie formelle qui a évolué, hein, qui était en perpétuel bouleversement, qui a pu s'enrichir d'apports divers et variés, c'est cette classe d'objets, hein, à l'intérieur duquel il y a la notion de bruit, qui est aussi un concept qui a considérablement évolué, qui s'est modifié aussi au rythme de deux choses. La première, qui est la très grande liberté formelle que la création artistique a pu connaître à l'aube du XXe siècle. Donc, ce qu'on va pouvoir dire à propos du son, et tu as toujours pensé également, et faites-le, en relation avec ce que vous savez, hein, de la création de cette période extraordinaire, la période moderne et des avant-gardes, hein, où l'ensemble des catégories ont un petit peu échappé de leur champ traditionnel. Hein, champ, c'est HAMP. Et ce sont donc, je vais confronter un certain nombre de radicalités, hein, suivies de certaines tables rases, enfin, bon, hein, ce que vous avez dû apprendre par ailleurs. Donc, la théorie de ça, dans l'objet sonore, dans les ensembles d'objets qui font le sonore, le bruit occupe une place très particulière. Si on reprend sa définition, enfin une définition qu'on peut lui donner, donc le bruit est un son qu'on ne veut pas entendre, voilà, grosso modo, hein. Donc, c'est quelque chose que l'on considère comme étant gênant, et c'est vrai que. Je dirais, la société contemporaine s'est largement construite aussi autour de ce qui est considéré comme la principale des nuisances actuellement dans le monde contemporain. Et sans doute, l'isolation acoustique fait partie d'une forme contemporaine de vivre ensemble. Hein. Donc on vit ensemble, mais on se sépare quand même du bruit des voisins et de l'environnement de manière générale. Sachant que, certes, nous sommes dans une société qui a produit beaucoup de bruit, hein, des bruits d'origine nouvelle, et ça nous en parlerons. Mais imaginez, au 18e, au 17e, au Moyen Âge, le bruit, c'était hallucinant. Je veux dire, on était quand même dans une société bruyante si on était en ville. Hein, le maréchal Ferrand, le tonnelier, etc. Enfin, imaginez les animaux qui criaient dans tous les sens, les abattoirs au centre de ville. Donc la notion de bruit, est, bien sûr, à sa définition contemporaine, il a toujours été là. Mais il reste, hein, dans un énoncé un peu simplifié, un son qu'on ne veut pas entendre. Alors quand on dit qu'on ne veut pas entendre, c'est assez intéressant aussi d'observer de quelle manière cette catégorie de son a pu se produire, hein, de quelle manière elle s'est enrichie, mais également de quelle manière la notion de réception a évolué. Hein. Donc, ce qui était considéré comme bruit, suivant un certain type de traitement, suivant une certaine forme d'attention, est devenu quelque chose comme un élément de construction. Hein, et c'est ce rapport-là aussi qui est intéressant de voir. Donc, si on n'entend plus exactement de la même manière, on écoute différemment aussi. Et donc, il y a une histoire, une esthétique du bruit. Et elle est sans doute née avec le XXe siècle. Donc, comme je vous disais, deux grands éléments qui sont fondateurs, ils sont absolument passionnants, les deux grandes circonstances. D'une part, cette liberté formelle, hein, que les arts se sont donnée, et nous en parlerons. Et puis aussi, l'apparition des techniques d'enregistrement. Ça, c'est fondamental. À partir du moment où le son peut être enregistré, hein, pour des plasticiens que vous êtes, hein, comme pour des musiciens, c'est un événement considérable. Donc, le fait d'enregistrer matérialise le son, hein, nous allons le voir un peu plus en détail, et donne un autre statut. Et l'objet sonore apparaît également à travers le principe d'enregistrement, par l'approche acoustique, acousmatique aussi, qu'il y a pu y avoir, donc l'approche physique, hein, la manière dont les physiciens, les acousticiens sont emparés de ce phénomène et sont mis à l'étudier. Hein. Alors, première chose, si on, hop, on démarre, début du XXe siècle, un certain nombre d'événements importants. Et entre autres, bon, le mouvement Dada, hein, bon, ça, je vais vite parce que ce sont des choses que vous savez, mais en tout cas, au moment où la sauvagerie se trouve dans les tranchées, en 1917, au cabaret Voltaire, des hurlements se font entendre qui sont une manière que des artistes déjouent les formes traditionnelles de production de l'art, les formes polies et convenues, et se mettent à éructer. Et naît du côté du Gobal ce qu'on peut appeler la poésie sonore, donc une manière de construire avec des mots, hein, en les libérant de leur sens, des forces, des énergies. Donc déjà une construction sonore qui échappe d'une certaine manière à ce qu'on peut attendre d'une syntaxe, d'un contexte, d'une histoire. Et il est vrai que c'est ce premier choc amène aussi, à travers le futurisme, hein, donc particulièrement en Italie, mais le suprématisme également en Russie, amène un certain type de positionnement, dont celui d'un plasticien, un peintre, qui s'appelle Luigi Russolo. Hein, on oublie quelquefois qu'il est d'abord un peintre. En 1913, a écrit L'art des bruits. Et également, même date, même époque, il y a un premier opéra futuriste qui se crée en Russie, qui s'appelle Victoire sur le soleil. Hein, on retrouve Malevitch, Matiouchin et Krouchenik. Donc, quelque chose de spectacle total, où la dimension sonore est extrêmement importante. Dans le travail de Luigi Russolo, effectivement, il y a tout ce que le futurisme peut donner, tout ce que le mouvement Dada apporte, c'est-à-dire en fait d'une certaine manière une recherche d'une objectivité. Hein, donc le son est considéré comme un fait, hein, et comme le résultat d'une opération mécanique. Il en parle de cette manière-là, hein, et jusqu'à, et ça c'est un peu le défaut, l'outrance du futurisme, à considérer que le bruit, la machine, le tumulte, qui deviennent avec la vitesse les signes de ce siècle, puissent avoir une forme absolue d'art qui peut être la guerre. Hein. Donc il y a aussi des dérives qu'il faut entendre et que Russolo énonce déjà, hein, et de suite dans son écriture. Mais il n'y a pas que ça. Si on observe strictement à partir de, quand je parlais liberté formelle, de ce qui va arriver à la musique, il est intéressant d'observer qu'il y a un certain nombre de choses. Hein, pour cette forme entendue, hein, bien qu'elle ait déjà été secouée par Wagner, mais cette forme entendue, hein, commence à intégrer un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas de la musique et qui vont en devenir. Hein. Donc il faut considérer que le champ musical s'ouvre de différentes manières. D'une part, l'environnement industriel. Et là, on revient effectivement à la dimension futuriste, à ce que je disais aussi de Luigi Russolo, dire le bruit de la machine, ce que l'on entend, ce que portent les ouvriers, la classe, hein, la classe ouvrière, ce qu'il y a de tumulte dans la force virile, hein, que le bruit apporte, dans cette fascination aussi du rapport au travail, qui va faire aussi le lit du fascisme. Hein. Donc il y a là-dedans... une dimension nouvelle, effectivement, on amène ces sons qui viennent de l'industrie. C'est aussi du son du quotidien, puisque, grosso modo, à la même époque, Eric Satie crée une pièce historique qui s'appelle Relâche, dans laquelle on entend, et c'était un scandale immense, le bruit d'une roulette de loterie, d'une machine à écrire, et des coups de pistolet qui sont tirés. Donc, imaginez... le choc que ça a pu faire, je crois que ça pourrait être encore surprenant maintenant, mais à l'époque, c'était évidemment très, très déstabilisant. La notion d'espace également, donc l'environnement, hein, le son d'environnement qui vient, puis la notion d'espace, c'est-à-dire de quelle manière le son peut occuper un espace, voire même le définir. Hein. Là aussi, on retrouve Eric Satie avec ses musiques d'ameublement, qui seront reprises après, ça créera aussi l'ambiante musique dans les années 70, avec Ryan Eno, mais ça, c'est aussi un autre phénomène. C'est aussi pour la musique une nouvelle lutherie, c'est-à-dire les instruments traditionnels, ceux qui produisaient des sons, hein, sont récupérés. De toute façon, Berlioz avait déjà dit tout instrument dans un orchestre, tout objet qui produit du son est un instrument de musique. Mais là, ça va encore plus loin. Donc, une nouvelle lutherie, bruitiste. Hein, Luigi Russo ne fait pas qu'invoquer les bruits de l'industrie. Lui-même va essayer de fabriquer des machines qui vont apporter ce son et va en faire des concerts. Hein. Donc, les russolophones, pour définir cette classe d'instruments, est assez étonnant. Une autre lutherie également. Mécanique, hein, là je vous ferai écouter des choses aussi, ou électronique, c'est-à-dire on invente d'autres manières de produire des sons, mais on reste à l'intérieur d'une écriture musicale. Hein. Donc c'est du son non référentiel, hein, donc il est brut, il est travaillé, il peut être brut, il peut être travaillé, et évidemment le son enregistré devient lui-même quelque chose d'extrêmement important, puisque l'outil qui va servir à enregistrer et reproduire le son devient un outil de production sonore. Hein. Donc son statut évolue également et on peut dire que le studio devient un instrument de musique également. L'effet de la visualisation est très important aussi, c'est-à-dire que l'arrivée de l'image et du cinéma sont considérables. On y reviendra plus loin. Le concept de musique évolue lui aussi considérablement. Hein. Donc à l'intérieur de ce concept, des éléments nouveaux arrivent, comme l'aléatoire. Imaginez l'acte fondateur, d'une certaine manière, de Duchamp, qui est la manière de Hans Arp, dans un sac, dépose des petits papiers avec des notes de musique, les tire au hasard, les laisse tomber, et compose donc une musique aléatoire à partir de ce geste. Hein. Donc cet aléatoire, qui plus tard, ça s'appelle l'erratum musical, hein, qui plus tard deviendra également la détermination, chère à Cage. La non-linéarité du son, donc ça aussi, on n'est plus dans une phrase linéaire, mais pensez également à tout ce qui est la référence plastique. Hein. Là aussi, je veux dire, la peinture n'a plus quitte la notion de narrativité, et la notion linéaire aussi disparaît. C'est aussi le travail de Schoenberg avec les 12 sons chromatiques qui sont agencés et non plus pour créer une mélodie. Hein. Donc ces notions de dissonance qui deviennent aussi des éléments musicaux alors qu'ils étaient rejetés à la périphérie. Voilà, donc tout ça crée effectivement des éléments assez étonnants. Alors j'ai envie peut-être tout de suite de peut-être passer un exemple. Alors, pour ne pas que je mélange, je vais vous passer un tout petit bout. Peut-être que vous connaissez ça, mais quand même entendre Schwitters, enfin plutôt Husselbeck qui...
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Oh, der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, be, Fünsbe, be, te, Fünsbe, be, te, zeu, pegit, wie, da da sindr iem, pittuto, te, Juka, rinsek de baby hinskermu, tiu hinsetiu rinskermu, raket de baby, rum de to, tiu hinsetiu hinskermu, tiu hinsetiu rinskermu, raket de baby, raket de bc, fums bava te ceu, u t t v b fums, u. B, 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 B.
Voilà, donc on peut aller plus loin. Hein. Mais enfin, la forme est libérée du sens. Hein. Vous pouvez le constater. Et ça ne raconte pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, on est dans un événement sonore. Un petit bout également de Luigi Russolo. Je vais vous faire des petits extraits. Hein. Donc, à défaut de captation par l'enregistrement, donc les machines sont là pour faire du bruit et évoquer, hein, donc cet univers industriel, ce nouveau champ sonore à l'intérieur duquel les énergies s'investissent. Donc on est effectivement dans cette démarche brutiste où l'attitude est plus plasticienne. Je veux dire, bon, le mode d'expérimentation est moins celui du musicien, plus celui du plasticien. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, puisqu'on peut s'adresser ou faire de la musique avec une autre attitude, avec une autre démarche, qui est simplement celle de noter des notes à partir d'un exercice sur un instrument de musique. Alors, ce qui me paraissait intéressant aussi, alors je fais une petite dérive à partir de ça, c'est que bon, le bruitisme, donc la notion de matérialité du bruit, a continué au-delà de l'époque historique de Dada et du bruitisme. C'est revenu, là je vais simplement évoquer un artiste un petit peu, un peu bizarre, même je pense un peu franchement ambigu, mais qui a continué à travailler cette approche du son, qui s'appelle, cette personne s'appelle Jean-Marc Vivenza, qui dans les années 70, les années 80, a fait pas mal. Donc si j'en parle, c'est pour deux raisons, parce que d'une part, les musiques industrielles sont venues, avec toute leur ambiguïté pour certaines, un peu à partir de sa démarche, on va entendre un peu ce qu'il faisait. C'est aussi quelqu'un qui était extrêmement présent à une époque sur la scène de l'art contemporain, donc il a été exposé au musée Saint-Pierre. Il était à Ars Electronica de Linz en 87, à Interzone à Québec en 92, etc. Donc c'est quelqu'un qui présentait sous une forme performative un travail complètement hérité de cela. Alors, ce qu'il met sur un de ses disques, je vous en donne un tout petit bout en lecture, très, très court, mais c'est pour vous donner un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir, comme dans, je dirais, le lyrisme, l'emportement qu'il y avait dans le futurisme, ne s'est pas vidé malgré la catastrophe, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore des pensées qui ont essayé de travailler à partir de ça, en essayant de le travailler de manière littérale. Donc, ce qu'il peut dire, cette approche, c'est lui qui parle, Vivenza, cette approche spécifique et matérialiste du schéma comportemental entre la matière sonore et l'auditeur renvoie à la question de l'utilisation du produit. Si le mode d'acquisition et d'écoute se situe inévitablement dans un système individuel et privé de consommation, la réduction ainsi accomplie, l'œuvre ne peut fonctionner qu'en deçà de son potentiel d'action. Inutile dès lors d'ajouter qu'il est hautement recommandé de répandre la masse sonore parmi les masses, en tout lieu, en toutes circonstances, au gré de l'utilisateur médiatisé en cette occasion, en mécanisme finalisé, formé spontané et éphémère de perturbations acoustiques. Bon, ok. Alors, on va écouter un petit bout de Vivenza. C'est toujours la même fascination, c'est le travail, c'est l'usine, c'est ce qui fume, c'est ce qui cogne. Et qu'il met en boucle avec son système à lui. Ça peut durer des heures, c'est effectivement très spectaculaire. Il y a la lumière, le son est poussé au maximum. Et à partir de ça, il y a un certain nombre de groupes, de musiciens ont travaillé sur tout ce mouvement de musique industrielle que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous. J'en mets un autre exemple. Aucun souci sur, je dirais, l'idéologie qui est derrière. C'est un groupe allemand qui... Christina, excusez mon accent. Donc c'est Einstürzende Neubauten, ok, ça va? Bon, merci. Donc qui eux ont travaillé beaucoup avec le théâtre, entre autres avec Heiner Müller. Donc je mets un petit bout parce que je crois que c'est la démarche est tout aussi radicale, mais l'esprit est fait d'une manière un peu différente. évidemment, tous ces extraits mériteraient d'être écoutés beaucoup plus longuement, mais je crois qu'on aura l'occasion pendant ces trois jours d'avoir des temps d'écoute, hein, qui d'ailleurs a ressollicité ce principe d'écoute à d'autres moments dans la vie de l'écoute, de l'école. Alors, donc, début du siècle, on le voit, finalement, cette catégorie, le bruit, ces objets sonores vont se déployer dans deux logiques, une première qui est musicale et l'autre qui est beaucoup plus brute, non musicale, et qui va donc amener, et ça, beaucoup d'autres, enfin d'autres interlocuteurs ici vont pouvoir en parler, donc l'art sonore, le sound art, hein, va trouver différentes formes proposées par des non-musiciens, voire des musiciens, mais en tout cas, cette catégorie, cet objet sonore qui apparaît, peut se libérer de l'écriture musicale, sachant que par ailleurs, cette tendance continue. Donc on est encore actuellement dans cette confrontation, dans cette rencontre qui est quelquefois riche, quelquefois douloureuse, quelquefois tendue, entre, je dirais, cette appréhension de l'objet sonore, soit à des fins musicales, soit non, à toute autre fin plastique. John Cage disait à la fin de sa vie, et ça me paraît assez intéressant de le citer maintenant, « Je n'ai jamais écouté aucun son sans l'aimer. » Hein, phrase bien connue. « Le seul problème avec les sons, c'est la musique. » Bon, c'est un curieux parti pris de John Cage, mais voilà, donc ça donne une certaine idée. Alors, donc on a un petit peu parlé de cette liberté formelle qui emmène un certain nombre d'éléments. Maintenant, parlons un peu du son électronique, c'est-à-dire l'art de l'enregistrement et de la manipulation des sons. Il est intéressant de savoir que il y a une rencontre, on va dire, musique et science, et particulièrement, il y a une personne, un physicien, un acousticien, Abraham Mols, qui, en 1945, ici à Marseille, au laboratoire du CNRS, laboratoire d'acoustique du CNRS, commence à travailler sur un certain nombre de recherches qui sont toutes orientées vers la question de la physique, la technique du bruit. Et là, c'est extrêmement intéressant. Bon, d'un point de vue strictement, je dirais, d'approche physique, hein, où le bruit devient un élément qu'on peut déployer suivant trois dimensions, la fréquence, l'amplitude et le temps, mais également de voir de quelle manière, par l'enregistrement, et donc la proposition qui est faite de pouvoir isoler un son d'un autre, la notion de bruit lui-même se trouve perturbée. De quelle manière également, du fait de cette perturbation, des plasticiens ou des musiciens vont s'en emparer et le traiter. Donc, ce que l'on sait, c'est que donc, ils proposent donc, par l'enregistrement d'ensemble de sons, hein, il y a deux choses qui apparaissent. Soit le son est effectivement quelque chose qui a été choisi, donc il y a une intention, hein, ce son est donc récolté sur la bande, hein, et à partir de ce moment-là, il est mesuré, hein, il est travaillé, il est analysé. Et à partir du moment où il est reproduit, par le fait même de l'enregistrement, il y a la volonté, et Abraham Mols travaillait beaucoup là-dessus, de reproduire dans les meilleures conditions sonores qui soient. C'est-à-dire que tout autre bruit, hein, devient, tout autre son devient un bruit. Donc le bruit, d'ailleurs il en parle parce qu'il le voit apparaître comme un parasite, hein, ça va du souffle de l'enceinte, comme par exemple le son d'une explosion. Hein, donc la gamme est extrêmement large et largement aussi subjective. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a donc deux types de bruit. Bon, celui qui va être travaillé et qui, avec Pierre Schaeffer, va être un élément pour créer une nouvelle forme de musicalité. Hein, et puis tous ces éléments éminemment parasites, hein, qui sortent de l'électronique, hein, tout en sachant également qu'il y a une troisième catégorie, ce sont les sons qui vont être produits par la machine électronique. Quand je parlais tout à l'heure de lutherie, de nouvelle lutherie, effectivement, la lutherie électronique va produire des sons inouïs, hein, au sens littéral du terme. Et donc, quand on est face à un travail qui peut être enregistré, qui est un travail en studio, on a donc ces trois sources, qui est d'une part un son concret, c'est-à-dire un son qui est pris de l'environnement, hein, qui est enregistré et puis traité. Ça peut être un bruit. Hein. Pierre-Henri a fait des pièces pour des soupirs et des portes qui grincent. Hein. Il y en a d'autres, on va passer à des exemples. Ça peut être, et ça c'est une approche concrète, donc le son concret, donc un son référencier, hein, référentiel, un son indicié, hein, un son indiciel. Donc celui-là, il est pris, hein, et à partir de cet élément, on le construit. Hein. Il y a également donc, le son de la machine, celui qui n'est pas indicié, qui n'est pas référencié, c'est celui qui est produit par l'électronique. Et puis tous ces éléments parasites, qui empêche la diffusion et la reproduction idéale de ces sons. Okay. Donc c'est extrêmement intéressant, la physicalité. Donc lui s'intéresse évidemment à voir de quelle manière à la fois analyser le bruit, celui qui gêne, le parasite, parce que pour l'analyser, ça permet aussi de progresser dans la reproduction. D'autres, comme toujours dans son laboratoire et après lui, comme Jean-Claude Risset, vont tenter également la synthèse sonore. Donc, de quelle manière, à partir de l'électronique, peut-on, simuler les sons concrets que, par ailleurs, Pierre Schaeffer va développer et essayer d'organiser. Donc, tout ça est extrêmement, extrêmement riche et tout à fait passionnant. Donc, que fait Schaeffer de son côté ? Donc, ils ont travaillé ensemble. Donc lui, il a un grand rêve, il reste à l'intérieur de la musique, hein, il reste à l'intérieur de la musique, et à partir de la matérialité du son, hein, parce qu'il y a aussi une autre matérialité qui est assez étonnante pour les bassistes que vous êtes, c'est que du son, on peut en faire au mètre, c'est-à-dire que le fait de l'enregistrement, je vous en mets 50 cm, j'en mets 1,50 m, et puis je le travaille avec une paire de ciseaux, hein, donc le collage, le cut, hein. Et c'est assez intéressant parce que ça aussi, je veux dire, il y a toute une démarche dans l'univers plastique qui va être du collage et du cut-up. Hein. Donc, il y a cette physicalité-là aussi. Hein. Donc, c'est de la bande, on coupe, on colle, on travaille ça au ciseau. Donc, que fait Pierre Schaeffer puis d'autres mais on ne va pas en parler de lui, puisque c'est une figure intéressante. Puis surtout, elle est passionnante parce que dans la démarche de Pierre Schaeffer, il avoue, où il reconnaît pour lui-même, de son point de vue, son terrible échec. Pendant 20 ans, 30 ans, il fait quelque chose qui le laisse totalement perplexe à la fin de ses multiples expérimentations. Et finalement, cette recherche de nouvelles musicalités, ce solfège des objets sonores, est un échec pour lui. Hein, c'est-à-dire qu'il constate effectivement que tout son ne convient pas, je le cite là, tout son ne convient pas au projet musical. Et ça, c'était son échec à lui, est une porte ouverte extraordinaire pour les plasticiens du son, pour ceux qui ne vont pas se préoccuper de cet échec de la musique et de la musicalité, mais qui vont au contraire libérer, affranchir le son de toute musicalité. Hein. Donc l'échec de Pierre Schaeffer est une ouverture considérable. Il faut dire qu'on n'a pas attendu que lui-même reconnaisse cet échec pour que ça puisse démarrer, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir ces paradoxes. À côté de lui et son approche éminemment rationnelle, hein, parce que c'est un rationnel, il y a l'approche intuitive hein, de John Cage. Autant Schaeffer veut maîtriser l'ensemble du projet et lui-même reconnaît, et ça vous amuse, j'imagine, d'une part qu'il y a une absence de sens hein, dans tout ce qu'il a fait, mais surtout l'effacement du sujet et de l'auteur au profit d'une navigation aux instruments. Ça, c'est terrible pour lui, c'est un aveu considérable d'échec. Il n'y a plus d'auteur, il n'y a plus de sujet. Hein. Et c'est vrai que par rapport à ça, John Cage, lui, il s'en fout. Hein. Donc sa démarche est complètement à l'inverse de ça. Donc on voit à partir du même matériau, de la même plasticité des objets sonores, des attitudes extrêmement différentes. Dont, d'ailleurs, je vais illustrer quelques éléments. Hein. Donc on voit qu'il y a, de la part de John Cage, où tout son... Hein, convient au projet musical. Hein. Tout son, y compris, on va dire, son contraire, conceptuellement, hein, qui est le silence, mais qui n'est pas un silence, en fait, qui est un bruit sans intentionnalité. C'est-à-dire ce qu'on entend quand même quelque chose quand il y a les 4 minutes 33 de cette pièce fondamentale, mais c'est un bruit de fond, c'est un son sans intentionnalité, mais qui se passe aussi dans un lieu dédié. Hein, donc il a aussi une fonction de ready-made, comme le riz noir, on le met dans un centre d'art, dans un lieu d'exposition, dans un musée. Là, le son, on le met dans une salle de concert. Et l'absence de... Enfin, le son, l'ambiant, hein, le silence, hein, et les bruits de la salle. Hein. Donc voilà, donc on est vraiment dans des approches extrêmement différentes, dont l'actualité historique était toujours et complètement en plein. Donc je vais quand même vous donner quelques petits exemples avant de passer à autre chose. Alors, il ne faut pas que je me perde dans mes papiers. Ouais, j'aurais pu vous passer un petit bout d'Isidore Wisou aussi, du lettrisme. Mais bon, tant pis. Alors, voilà. Alors, intéressant de voir de quelle manière Jean-Claude Risset travaille le son. Parce qu'évidemment, il y a une approche psychosociologique du son. Hein, il y a une approche cognitive. Donc, lui va beaucoup s'intéresser à ça. Ce qu'on considère comme effectivement un bruit, ne l'est pas forcément dans toute catégorie de réception. Hein. Également, le son se travaille hein, de telle manière à ce qu'il puisse y avoir quelques aberrations, comme un son qui n'en finit jamais. Hein. Donc il va beaucoup travailler sur cet exercice, hein, tout en créant évidemment un univers de son absolument extraordinaire. Donc on retient le physicien, particulièrement en France. Et on oublie souvent que Jean-Claude Risset est aussi un très grand musicien et un énorme compositeur. Alors, un peu de Pierre Schaeffer. Alors, j'ai oublié de vous donner les années. Donc ça, ce travail date de 69. C'est important de pouvoir historiciser. Alors, les 5 études de bruit, Pierre Schaeffer, les années 50. On est complètement dans l'analogie, n'oubliez pas. Hein. Paire de ciseaux, colle, machin, scotch. Thank you. Donc ça, vous reconnaissez évidemment par le son, la qualité également de sa diffusion, qu'on est donc aux prémices, l'art sonore est en train de se créer, en tout cas dans les studios de Pierre Schaeffer. Aussi, bon, parmi les sons électroniques, je vous en fais écouter un aussi qui est assez intéressant, qui est, là c'est interprété par Percy Grainger, qui lui-même est un bonhomme qui a lui aussi travaillé à une lutherie hallucinante d'objets sonores divers et variés. Mais là, il interprète une pièce free music pour quatre thérémines. Le thérémine est un des premiers instruments électroniques. Là aussi, on est même pas dans les années 20. Hein. Et donc, un ingénieur russe invente ce truc, vient aux États-Unis, développe ce projet d'instrument qui se pilote avec les deux mains. Hein. Donc, on coupe un champ. Voilà, un champ électronique, hein, donc il y a des détails que je pourrais vous donner plus précisément, mais c'est des premiers instruments électroniques avec un son très particulier qui va connaître également au développement, qui sera repris. C'est assez proche à si musical. Voilà, bon, assez étonnant et spectaculaire à voir aussi, ça s'utilise encore. Hein. Alors, deux choses aussi, deux petits exemples qui me paraissent intéressants également par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Dans les catégories de bruit qu'Abraham Molls fait apparaître, donc la notion de parasite est absolument insupportable, puisqu'il s'agit évidemment, dans un premier temps, d'éliminer pour que la rediffusion, pour que la qualité de l'enregistrement soit nettoyée de tous ces éléments et soit donc la plus parfaite, hein, la plus absolument parfaite qui soit. Par contre, il est assez intéressant de voir, et assez tôt, avant Christian Marclay, dans les années 70, des artistes, des musiciens ou des plasticiens, un petit peu déconstruire tout ça et s'emparer des vinyles, des outils de reproduction de l'époque, hein, des platines, vinyles, et puis d'en faire des choses comme ça. D'autres se sont emparés aussi. Hein. Non, c'est pas Marclay. Non, alors c'est. Alors moi, je ne connaissais pas. C'est Milan Knizak, qui est un Tchèque et qui a été le premier, semble-t-il, à se lancer dans ce type de déconstruction, hein, reconstruction. Donc on voit à quel point la notion de bruit devient subjectif. Abraham Molls le reconnaît lui-même, que c'est une catégorie qui peut être identifiée d'un point de vue physique, mais qui, en termes de réception, est tout à fait subjectif. Alors ça, c'est. pour ceux qui ont connu les vinyles et ce qu'on peut en faire, et les bruits spécifiques qui en sortent quand il y a du parasite, on vient de l'entendre. Là, maintenant, on est plus... Alors ça, c'est une pièce de... Ah oui, c'était de 79, ce qu'on a entendu de Milan Knisak. Alors, là, autre chose, autre type de parasite et son utilisation. Là, c'est un plasticien, musicien, plasticien Karsten Nicolai, qui, quand il est musicien, s'appelle Alvan Otto. Voilà, je vous fais écouter ça, ça date de 2000. Également dans la production sonore et l'art du bruit, s'il y a une lutherie fantastique, on vient de voir des exemples, hein, à partir de ce qui est électronique, mécanique et autres, le bruit, la manière dont ça peut être absorbé et transformé en objet sonore, il y a également, et ça c'est tout à fait passionnant aussi, la manière dont, par l'amplification, mais pas forcément d'ailleurs, les instruments traditionnels, les instruments de l'orchestre, et particulièrement les nouveaux instruments qui viendront dans la pop musique, dans le rock, de quelle manière, effectivement, la notion de saturation devient extrêmement intéressant et porteur d'une musicalité nouvelle. Donc là aussi, on est dans des domaines qui sont, pour certains, proches de l'inaudible, et pour d'autres, ouvrent des champs considérables, qui sont des champs sans doute saturé, mais qui crée également un univers de son entre la musicalité et l'absence de musicalité. Où est-on exactement? On ne le sait pas très bien. Donc il y a effectivement là-dedans des actes fondateurs, c'est celui posé par Lou Reed du Velvet Underground, qui sort Metal Music Machine, qui est effectivement une espèce d'ovni dans la pop musique des années 70, puisque d'abord c'est un double album, qui c'est pas des petites chansons qui se suivent, mais c'est des longues phases de saturation sur ces quatre faces qui sont sans arrêt, sans découpage, donc le machin absolument invendable, mais qui crée un événement considérable dans le domaine de la musique. Alors il n'est pas le seul, il y a quelques autres dans plus ou moins la même époque, je parle de 1974, mais il y a aussi, je trouve un petit bout de japonais, hein, les rallyes dénudés. un petit bout de louride, si vous avez encore quelques oreilles. Donc, quand je parlais de saturation d'amplification du son à outrance, il est assez intéressant de voir que c'est la pièce de louride dont je vous passe un petit extrait, a été retravaillée très récemment performée par des instruments acoustiques, hein, donc sans amplification. Hein. Donc, il y a Zeitkratzer. Hein, ouais, OK. Donc, c'est absolument passionnant de voir de quelle manière ils se sont emparés de ça. Là, on n'est plus dans la même relation. C'est passionnant aussi de voir le DVD. Ce sera peut-être un truc. Je ne sais pas si on le passera dans ces 3 jours-ci. Mais sachez que c'est un moment de très grande intensité. Je vous passe un tout petit bout de louride. Juste un petit bout. C'est intéressant de voir à quelle manière, à partir de la saturation des sons, des harmoniques surgissent par des systèmes d'amplification. Alors, 5 minutes et puis je termine. Donc, je voulais vous parler aussi, puisqu'on est dans le sujet de rapport son, bruit, espace, d'une approche historique, mais qui, pour le moment, reprend beaucoup d'importance, qui est l'approche dite phonographique, donc la phonographie, qui semble être un terme qui a été inventé par François-Bernard Mach, qui est un musicien contemporain, et qui identifiait à l'époque l'ensemble des sons enregistrés, environnementaux, qui n'étaient pas retravaillés, donc qui étaient donnés bruts dans la composition musicale contemporaine. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une approche assez intéressante. La phonographie réinvente ou recrée un rapport à l'environnement qui est extrêmement riche de création pour le moment. Je pense que d'autres intervenants pourront en parler de manière plus précise encore, mais moi, ce que je retiens à cela, c'est que ce qui est le plus important, c'est la démarche d'enregistrement, c'est-à-dire, en fait, c'est d'ouvrir le micro, hein, et de laisser venir l'événement, hein, de certes l'événement ou l'environnement, je veux dire, même s'il n'est pas événementiel. En tout cas, les sons viennent de là. Donc, c'est assez intéressant. C'est la capture du son qui prévaut dans ce cas-là. Hein. Et puis, bien entendu, sur sa reproduction. Et puis, évidemment, c'est une tendance qui est plutôt dans l'esprit de la découverte que de l'invention. Ça, c'est important aussi. Donc, il y a une attitude, il y a un travail de l'écoute. Il y a un travail de l'enregistrement, il y a un travail de l'oreille. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Alors, c'est défini d'une manière... je trouvais que c'est un petit bout de définition que je vous laisse, comme ça je trahis encore moins l'intention. Cela signifie la capture, donc la phonographie, hein, la capture possible de tout événement qui puisse être reproduit et représenté de manière sonore. Les événements audibles sont sélectionnés, cadrés, dans la durée, selon la méthode de capture, puis transposer dans un cadre particulier, bien entendu, hein, donc on repasse les choses enregistrées hors du cadre où les enregistrées, dans un cadre particulier qui distingue l'enregistrement de l'événementiel original durant lequel il a été capturé. Voilà. Donc, ça aussi, énormément de travaux intéressants. Je peux mettre 2 petits extraits, je terminerai par là, d'une minute chacun. On en parlera d'autres moments, mais Luc Ferrari, c'est quand même intéressant de le mettre à cet endroit-là, sachant que lui n'a cessé d'être musicien, hein, tout en travaillant sur une prise du son du sonore du quotidien, de l'environnement, de l'espace. Alors la pièce ici, on va entendre que le bruit est plus important que ce qui peut être le fond de dialogue ou le travail musical. Et puis je mettrai un petit extrait ensuite d'Aki Honda, où là c'est l'inverse, c'est plutôt le son environnemental qui est plutôt rassurant, et puis il y a un travail musical, il y a une phrase qui vient perturber cet environnement. Donc Luc Ferrari, voilà, c'est tiré du cycle des souvenirs 95-2000. Un petit bout d'Aki Honda pour terminer. Goodbye New York. Voilà. Ainsi se termine mon petit travail d'introduction.